Bonsoir, chers auditeurs de l'Espérance. Nous allons nous mettre devant le Seigneur ce soir. Le thème proposé par le sanctuaire du Parlémonial de cette année, c'est la consécration. Pour eux, je me consacre moi-même, disait Jésus. Et nous voulons vous proposer chaque début du mois une démarche de consécration au cœur de Jésus. Alors pour ce faire, nous avons pris déjà l'habitude de nous remettre à l'intercession de la Sainte Vierge Marie, de vivre cette démarche en union avec son cœur à elle, le cœur qui a été parfaitement uni au cœur de Jésus. Alors, en ce début de mois de mai où l'Église a l'habitude d'honorer particulièrement la Vierge Marie, eh bien, nous faisons mémoire, bien sûr, des apparitions de la Vierge Marie à Fatima, dont la première a eu lieu un 13 mai 1917. Mais bien sûr, dans cette chapelle du monastère de la Visitation, nous sommes conscients qu'à la fin du mois, nous allons fêter justement cette visitation de la Vierge Marie. Et en cela, penser, prier avec la Vierge Marie, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel en ce début de mois de mai. C'est pour cela que le thème proposé pour cette rencontre est « À Jésus par Marie ». Bien sûr que ces paroles nous font penser à Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui est notre guide d'une manière particulière, mais aussi nous pouvons méditer, réfléchir aussi sur le lien entre le cœur de Jésus et le cœur de Marie sur d'autres points de vue. Et vu ce que je viens de vous proposer, je vous propose ce soir de nous arrêter sur trois points. Premièrement, de nous rappeler simplement quelques similitudes parallèles qui est étonnant entre les apparitions du Sacré-Cœur de Jésus ici au XVIIe siècle et respectivement celle du Cœur Immaculé de Marie au XXe siècle à Fatima. Surtout sur trois aspects, le contexte, ensuite concernant la demande de réparation et enfin la démarche de consécration. Et puis bien sûr nous pouvons penser aussi à la fête qui a été demandée par Jésus ici à Parlémonial et respectivement cette vénération du cœur immaculé de Marie à Fatima. Le deuxième point, ce sera peut-être en quelques mots l'importance de la dévotion de la Vierge Marie dans la vie de Sainte Marguerite Marie. Mais ce seront seulement quelques points parce que il y aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Et enfin, nous allons nous arrêter un peu aussi sur l'histoire du culte du cœur immaculé de Marie, dans la liturgie notamment. Alors, demain et après-demain, les enseignements donnés nous aideront à méditer et à nous préparer à cet acte de consécration auquel nous sommes invités, une consécration à Jésus par les mains de Marie. Nous le vivrons en deux étapes, en nous laissant guider par Saint-Louis-Marie Guignon de Montfort. Alors, concernant le premier point, les similitudes entre les apparitions parlémoniales et celles de Fatima. Comme une petite introduction, je vous propose simplement de réentendre les paroles que l'ange de la paix a voulu dire aux trois enfants durant les trois apparitions qui ont précédé les apparitions de la Vierge Marie. L'ange est venu en 1916, et puis même encore entre avril et octobre 1915, il était aussi apparu, mais sans rien dire, mais en printemps, en été, en automne 1916, il a adressé des paroles très claires aux trois enfants qu'on pouvait préparer justement à accueillir ce que la Vierge Marie allait leur dire, à eux et à l'Église. Et justement, l'ange de la paix souligne, enfin, montre comme quelque chose de connu déjà à l'époque, ce lien entre les cœurs de Jésus et de Marie. C'est donc une façon de préparer leur cœur d'enfant à ces grandes apparitions de la Vierge Marie l'année suivante. Et chaque fois, l'ange leur parle des cœurs de Jésus et de Marie. La première apparition, donc, qui a eu lieu au printemps 1916, l'ange leur dit, après la prière que nous connaissons très bien, parce que surtout quand nous récitons le chapelet, ou même en dehors, « Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère et je vous aime. » Et l'ange précise ceci, « Priez ainsi. Les cœurs de Jésus et de Marie sont attentifs à la voix de vos supplications. » Dans la deuxième apparition, au cours de l'été 1916, alors que les enfants jouent, l'ange commence par leur dire « Que faites-vous ? Priez beaucoup. Les saints cœurs de Jésus et de Marie ont sur vous des desseins de miséricorde. » Et ensuite, il les invite à offrir constamment des prières, des sacrifices. Enfin, dans la troisième apparition de l'ange, à l'automne 1916, prosterné jusqu'à terre devant le calice et l'hostie suspendue en l'air, il leur apprend encore une prière adressée à la Sainte Trinité qui finit ainsi « Par les mérites infinis de son très saint cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. » Simplement, on rappelle, pour nous rendre compte combien, en ce début du XXe siècle, eh bien, cette unique dévotion, si on peut dire cet unique culte, était déjà vécue dans l'Église. Et l'ange ne fait que rappeler voilà, cette révélation, que c'est comme une invitation de Dieu lui-même, en fait, d'accueillir aussi ce culte de la Vierge Marie qui est très lié, intimement lié, au cœur et au culte du cœur de Jésus. Alors, concernant maintenant les similitudes en tant que telles, premièrement, du point de vue du contexte historique et spirituel. Nous savons que ici, en France, et en parallémonial, on était à l'époque du début des rationalistes et des idéologies qui vont vouloir nier la charité. Il y avait des profondes divisions en Europe, la guerre des religions, l'hérésie du jansénisme qui faisait beaucoup de mal. Mais en même temps, un siècle aussi de grande spiritualité, comme nous le savons, de renouveau religieux avec des figures comme Saint François de Sales, Vincent de Paul, Bérulle, alors cette école française qui a été développée par Bérulle, et notamment concernant l'importance du mystère de l'incarnation, et aussi Saint Jean Eudes, un disciple de Bérulle, qui aura une influence décisive pour le culte des cœurs de Jésus et de Marie. À Fatima, le contexte n'était pas non plus extraordinaire au niveau politique. La nation portugaise était écrasée et persécutée dans son âme depuis un siècle et demi, au point qu'on a dit que le Portugal a connu alors la période la plus sombre de son histoire. En effet, sur le plan international, nous savons, il y a eu lieu la Première Guerre mondiale. Et en 1917, débute le communisme dans le monde par l'Assemblée du Soviet à Petrograd pour s'étendre comme une marée montante en même temps que la violence contre les catholiques. Mais en même temps, d'un point de vue plus positif, sur le plan religieux, le pape Pie X est en train de travailler à la réforme liturgique, en rappelant l'importance surtout de l'Eucharistie et de la communion fréquente. Ce pape, comme un peu plus tard Benoît XV, encourage aussi l'intronisation du Sacré-Cœur dans les familles, qui a été encouragé, promu par Père Matteo, représenté ici sur la fresque. Sous le pontificat de Benoît XV encore, est consacré à la basilique de Montmartre à Paris, Sacré-Cœur, en 1919, et aussi canonisé Sainte Marguerite Marie en 1920, hein, c'est pour pour rien que nous nous préparons avec joie au centenaire de cette canonisation, ici. Pie XI, en 1925, va instaurer la fête du Christ-Roi de l'univers, et aussi il va canoniser Jean Eudes, avec encore d'autres grandes figures de l'Église. Il va béatifier aussi Claude la Colombière en 1929. Alors, c'est l'époque où justement la spiritualité du Sacré-Cœur se répand en grande vitesse, grâce aussi au nombre croissant de diverses confréries à travers le monde. Et enfin, nous sommes rappelés il n'y a pas très longtemps, ce dimanche de la Miséricorde surtout, et les jours d'avant, que Sœur Faustine vivait à la même époque. Née en 1905, elle sera appelée l'apôtre de la Miséricorde divine, du cœur du Sauveur. Donc voilà quelques ressemblances au niveau du contexte, des points un peu plus tristes, mais aussi une présence, une action très puissante, visible même, de la part du Seigneur dans l'histoire de l'Église et de l'humanité. Un deuxième aspect de ce parallélisme concerne la réparation. Dans les deux cas, et à Parlémonial et à Fatima, il est demandé l'établissement de la dévotion à un cœur, notamment le Sacré-Cœur et le cœur immaculé de Marie. À chaque fois, l'insistance est posée sur la réparation, ou l'expiation, comme le disent certains, à travers des dévotions très concrètes qui sont proposées, comme pour faire contrepoids aux offenses de l'époque, et aussi pour apporter une consolation à ces deux cœurs, en même temps qu'invoquer la miséricorde pour le monde et la conversion des pécheurs. Ici, à Parlémonial, la demande de réparation est faite surtout pour les outrages et les sacrilèges envers l'Eucharistie, et donc aussi à travers la communion réparatrice, et puis aussi, bien sûr, l'institution de la fête du Sacré-Cœur. Mais nous le savons bien, c'est ce que nous allons vivre dans quelques instants, cette heure sainte, où nous allons nous approcher du cœur du Seigneur en agonie, mais aussi il y a la pratique que Jésus encourage de communier les premiers vendredis du mois. Et puis, dans la tradition, nous savons qu'il s'agit de l'encouragement de pratiquer cela 9 vendredis premiers de mois, comme pour entrer dans un nouvel enfantement, en fait, et dans une fidélité. C'est sûr que si on va jusqu'au bout de ces 9 mois, normalement, on n'a pas envie d'arrêter. On veut continuer et on ne va pas se dire « ça y est, maintenant j'ai gagné mon ciel, c'est terminé ». Et à Fatima, pareil, la Vierge Marie qui insiste de prier et de faire des sacrifices, alors que les enfants, ils n'étaient pas très grands. Et ils ont compris cet appel. Ils ont fait beaucoup de sacrifices. Pourquoi ? En réparation pour les pécheurs. Et cette expression revient surtout dans les apparitions de 13 mai, 13 juin et septembre, le 13 septembre. Et un peu plus tard, la Vierge Marie viendra demander à Lucie, qui sera au Carmel, la pratique des 5 premières samedis du mois, aussi en signe de réparation à travers la confession et la communion. Et enfin, un troisième aspect dans ces similitudes, à chaque fois, il a été demandé la consécration à ses cœurs, le cœur de Jésus, le cœur de Marie. La question de la consécration de la France au Sacré-Cœur reste encore très mystérieuse, mais aussi à Fatima, la consécration de la Russie au cœur immaculé de Marie a été suggérée. Et en effet, Sainte Marguerite Marie va rédiger elle-même un acte de consécration aux 5 cœurs, on le verra tout à l'heure. Alors, on ne sait pas de quelle manière le roi Louis XIV a reçu en 1689 la demande de consacrer la France, mais on sait que plusieurs années après, plus d'un siècle plus tard, le pape Léon XIII a voulu consacrer le monde entier au Sacré-Cœur de Jésus le 9 juin 1899, quelques 40 ans après l'instauration de la fête demandée par Jésus ici, la fête de son Sacré-Cœur. Concernant Fatima, le 13 juillet, Marie venait pour dire « Je viendrai demander la consécration de la Russie à mon cœur immaculé ». Et en effet, quelques décennies plus tard, le 31 octobre 1942, le jour de la clôture solennelle du jubilé de 25 ans des apparitions de Fatima, le pape XII, s'exprimant à la radio, a consacré le monde au cœur immaculé de Marie. Cet acte a été renouvelé d'une manière plus solennelle encore, et vraisemblablement selon les désirs précis de la Vierge Marie, par Jean-Paul II en 1984. Alors, ces quelques similitudes nous aident à mieux réaliser comment, justement à certains moments de l'histoire, le Seigneur Dieu lui-même se plaît à nous faire connaître sa volonté sous forme de révélations privées ou publiques, qui, bien sûr, ne font que confirmer l'unique et définitive révélation de Jésus. Et concernant justement la dévotion au cœur immaculé de Marie, eh bien, nous sommes ainsi invités à ne jamais la séparer du culte du cœur de Jésus. Donc cette consécration que nous proposons ici dans la chapelle le samedi soir, ou que certains le font, la font tous les jours à la Vierge Marie, eh bien, ne peut jamais être séparée d'une offrande au cœur de Jésus. Alors je vais passer au deuxième point concernant justement l'expérience de Sainte Marguerite Marie concernant le rôle de la Vierge Marie dans sa vie et le cœur de Marie même. Alors, il y a parmi les nombreuses visions et apparitions qu'elle a eues, une qu'elle a datée elle-même le jour de la fête du cœur de la Bienheureuse Vierge Marie. En effet, c'est important avant d'écouter son propre témoignage, son propre récit, c'est important de se rappeler qu'une fête de cœur de Marie se célébrait au couvent de Paray-le-Monial ici, et d'ailleurs dans le diocèse d'Autun, depuis que le Monseigneur de la Madeleine de Ragny, évêque d'Autun, en avait autorisé la célébration dans tout le diocèse donc, le 20 janvier 1648, mais qu'il avait célébré lui-même dans sa cathédrale le 8 février de la même année. Alors, selon les historiens, à cette occasion, le père Jean Eudes, qui en était à l'origine, a voulu faire imprimer à Autun même les deux offices du Saint-Cœur et du Saint-Nom de Marie, et ce livret, qui contenait aussi d'autres prières mariales, devait sûrement être entre les mains des visitandines de Paris. Donc vous allez chercher les sœurs dans les archives, sûrement vous allez les trouver. Et notamment durant les fêtes, la célébration du cœur de Marie, de la messe et de l'office composé par Jean Eudes. Alors voilà ce que Marguerite Marie dit concernant le cœur de la Vierge Marie. Un jour de la fête du cœur de la très sainte Vierge, après la sainte communion, notre Seigneur me fit voir trois cœurs, dont celui qui était au milieu paraissait très petit et presque imperceptible. Les deux autres étaient tout lumineux et éclatants, dont l'un surpassait incomparablement l'autre, et j'entendis ces paroles. C'est ainsi que mon pur amour unit ces trois cœurs pour toujours. Les trois n'en firent qu'un. Cette vue me dura assez longtemps et m'inspira des sentiments d'amour et de reconnaissance qu'il me serait difficile d'exprimer. Alors les seules visitandines vont ajouter un peu plus tard une explication. Ces deux cœurs lumineux sont évidemment les sacrés cœurs de Jésus et de Marie. Et le plus petit, celui de notre Bienheureuse, qui s'y allait abîmer. Alors, soyons clairs, il s'agit d'une vision différente de celle que nous connaissons peut-être un peu mieux, nommée aussi vision des trois cœurs, mais qui concerne Claude la Colombière et Marguerite Marie, dont les cœurs sont unis à celui de Jésus, et qui est cette vision représentée sur le tableau en dessous de la châsse de Saint-Claude. Alors, la manière dont Marguerite Marie concevait la dévotion au cœur de Marie s'exprima à travers le défi qu'elle donnait à ses novices pour l'Avent de 1685. Ô divin cœur de Jésus, vivant dans le cœur de Marie, je vous conjure de vivre et de régner dans tous les cœurs et de les consommer dans votre pur amour. Ou encore une autre exhortation, toujours pour le temps de l'Avent, pour honorer cette vie de sacrifice du Verbe incarné, vous unirez et lierez votre esprit à celui de Jésus que l'amour tient immolé sur l'autel du cœur de Marie. Ce sont bien sûr des expressions qui sont développées, expliquées par Jean Eudes, mais en même temps, elle nous rappelle aussi quand même quelque chose de très important, que toute la spiritualité de l'ordre de la visitation a été imprégnée par l'enseignement du fondateur, François de Sales, qui, lui, déjà, le 10 juin 1611, écrivait à la mère de Chantal, la cofondatrice, sur la fondation de l'ordre, en disant ceci: « Bonjour ma très chère mère, Dieu m'a donné cette nuit la pensée que notre maison de la Visitation est, par sa grâce, assez noble et assez considérable pour avoir ses armes, son blason, sa devise et son cri d'armes. J'ai donc pensé, ma chère mère, si vous en êtes d'accord, qu'il nous faut prendre pour arme un cœur unique, percé de deux flèches, enfermé dans une couronne d'épines. Ce pauvre cœur servant dans l'enclavure une croix qui le surmontera et sera gravé des sacrés noms de Jésus et de Marie. » Vous pouvez voir cela peut-être un peu de loin sur la mosaïque justement de Saint-Claude de la Colombière, si je ne me trompe pas, ou alors vous parlez avec les sœurs de la Visitation et vous vous montrez cela. « Ma fille, continue François de Sales, je vous dirai, à notre première vue, 1000 petites pensées qui me sont venues à ce sujet, car vraiment, écoutez ceci, notre petite congrégation est un ouvrage du cœur de Jésus et Marie. Le Sauveur mourant nous a enfantés par l'ouverture de son sacré cœur. » C'est magnifique, c'est beau. Oui. Je ne vais pas insister sur le fait que Marguerite Marie, déjà, depuis sa jeune enfance, avait un amour tout particulier envers Marie, dont elle a voulu prendre le nom quand elle était toute jeune, au moment de sa confirmation, comme une sorte d'action de grâce pour la guérison qu'elle a reçue à ce moment-là. Alors, bien sûr que ces expressions de François de Sales, qui circulaient, on peut dire, à l'époque, un peu dans tout ce mouvement de l'école française de spiritualité, a frappé sûrement le père Jean Eudes, qui l'a fait sienne, et qui en a fait de cette manière le centre de son enseignement, l'expression « le cœur de Jésus et de Marie ». Et alors, un peu plus tard, Louis-Marie Grignon de Montfort a puisé aussi son enseignement, bien sûr, dans l'école de l'école française, telle que Bérulle a voulu la développer. Enfin, pour terminer sur le troisième point concernant quelques éléments de la fête du cœur immaculé de Marie, qui s'est développée toujours en union avec la fête, enfin le culte aussi du cœur de Jésus, sur lequel je ne vais pas insister, comment la fête du Sacré-Cœur a été acceptée, instaurée, encouragée par l'Église. Mais c'est beau, c'est important de se rappeler comment Saint Jean Eudes, par exemple, a voulu montrer que la propagation de la dévotion du cœur au cœur de Marie doit se faire toujours en union avec la propagation du cœur du Sacré-Cœur de Jésus. Il disait ceci: le cœur de Marie reçoit du cœur de Jésus tout ce qu'il possède de vie et de perfection. Par la force même des choses, le culte qu'on lui rend aboutit toujours au cœur de Jésus. Puisque le rôle de Marie est de servir de médiatrice entre Jésus et nous. Alors, tout en puisant bien sûr cette doctrine dans la parole de Dieu, dans la tradition de l'Église, dans les théologiens, Jean Eudes va franchir une étape importante dans l'histoire justement de cette instauration de la fête du cœur de Marie, qu'il a voulu demander déjà de son vivant à l'Église. Et en la célébrant, en fait, il voulait dire qu'on célèbre la fête du très adorable cœur de son Fils, en réalité. Ainsi, la Vierge Marie elle-même nous révèle que le cœur de son Fils est son cœur. L'oraison même de la messe composée par Saint Jean Eudes, qui a été nommée par le pape au moment de sa canonisation, apôtre des cœurs de Jésus et de Marie, était celle-ci. Donc c'est l'oraison de cette messe. Dieu, qui a voulu que ton Fils unique, éternellement vivant en ton propre cœur, vive et règne dans le cœur de Marie, donne-nous de célébrer cette vie très sainte de Jésus et de Marie en un seul cœur, de n'avoir qu'un seul cœur entre nous et avec eux, et d'accomplir en tout ta volonté avec amour et de grand cœur. Au cours du XIXe siècle, sa sainteté Pie VII d'abord, en 1805, et Pie IX ensuite, vont accorder à plusieurs églises une fête du cœur très pur de Marie qui était fixée dans un premier temps au dimanche dans l'octave de l'Assomption. Mais le 13 juillet 1917, donc à Fatima, la Sainte Vierge Marie a voulu apparaître pour justement établir, demander que la dévotion à son cœur immaculé soit établie pour le salut du monde. Et comme je le disais tout à l'heure, le 31 octobre 1942, le pape Pie XII a voulu consacrer le monde au cœur immaculé de Marie pour répondre à cet appel de notre Mère du Ciel. Et le 8 décembre, voilà ce qu'il disait aussi dans un message qu'il nous a laissé, 8 décembre 1942. C'est le pape Pie XII qui parle. Les fidèles doivent veiller à associer étroitement le culte du Sacré-Cœur et le culte envers le cœur immaculé de Marie, car notre salut vient de l'amour et des souffrances de Jésus-Christ, indissolublement unis à l'amour et aux souffrances de sa mère. C'est pourquoi il convient que le peuple chrétien rende aussi au cœur très aimant de sa céleste mère de semblables hommages de piété, d'amour, de gratitude et de réparation. Aux âmes de péché, à celles qui souffrent de leurs fautes, à celles qui veulent expier les péchés des autres, la dévotion du cœur de leur mère paraît être un havre à la fois d'idéal et de pardon. En 1944, en pleine guerre mondiale, le même souverain pontife veut encore une fois consacrer tout le genre humain au cœur immaculé de Marie pour le mettre sous sa toute-puissante protection. Et à l'occasion de cette même cérémonie, il a décrété que l'Église entière célébrerait chaque année une fête en l'honneur du cœur immaculé de Marie afin d'obtenir par l'intercession de la Très Sainte Vierge, je cite, « la paix des nations, la liberté de l'Église, la conversion des pécheurs, l'amour de la pureté et la pratique des vertus ». Alors, il a fixé comme date de cette fête le 22 août, jour donc de l'octave de la fête de l'Assomption. Mais un peu plus tard, depuis les dernières modifications liturgiques, la liturgie de l'Église en sa forme ordinaire, fête maintenant au samedi suivant la solennité du Sacré-Cœur de Jésus, le cœur immaculé de Marie, qui est devenu depuis 1996 une mémoire obligatoire. Alors, pour terminer, concernant ce lien très fort qui va nous aider nous-mêmes à vivre paisiblement ces démarches proposées durant ces rencontres, cette retraite, je vais vous proposer d'entendre les paroles de Jacinthe quelques jours avant de partir à l'hôpital, donc quelques jours avant sa mort. Quand elle a voulu confier à sa cousine Lucie ses dernières pensées qui peuvent être pour nous comme une lumière qui peut nous aider beaucoup sur ce point très précis qui va nous encourager dans la démarche proposée. Jacinthe disait ceci: « Il ne me reste plus beaucoup de temps pour aller au ciel. Toi, tu resteras ici, toi Lucie, afin de dire que Dieu veut établir dans le monde la dévotion au cœur immaculé de Marie. Le moment venu de le dire, ne te cache pas. Dis à tout le monde que Dieu nous accorde ses grâces par le moyen du cœur immaculé de Marie, que c'est à elle qu'il faut les demander, que le cœur de Jésus veut qu'on vénère avec lui le cœur immaculé de Marie, que l'on demande la paix au cœur immaculé de Marie, car c'est à elle que Dieu l'a confié. Des paroles d'une grande actualité, eh bien, nous sommes invités ainsi, à travers notre démarche de consécration, de, je dirais, voir plus loin que notre propre bien, quoi. Notre action, notre acte volontaire d'offrande de nous-mêmes, unis justement à cette offrande de Marie et à celle de Jésus, a une valeur rédemptrice pour le monde d'aujourd'hui. Quel qu'il soit le nombre de ceux et celles qui vont faire cette démarche, ce n'est pas une question de calcul, c'est vraiment un acte de foi qui a une portée qui nous dépasse complètement. Alors, je vous propose maintenant d'entrer dans cette union intime avec le Seigneur Jésus ressuscité, qui nous invite encore à nous unir à lui, déjà, dans cette heure sainte. Eh bien, entrons aussi dans cette joie de Pâques, cette victoire sur le mal, qui jaillit du cœur de Jésus, auquel le cœur de Marie a été toujours intimement lié. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.